On retrouve nos deux invités, le professeur Luc Montagnier et Françoise Barrécine aussi. Tout de suite, une question d'Annick Cogent pour
Le
Monde.
Je reviens sur ce que nous abordions tout à l'heure et le fait qu'à la conférence de Mexico du mois d'août dernier, vous étiez peut-être, on était tous à la recherche de bonnes nouvelles, évidemment. Et l'une de ces bonnes nouvelles, mais vous allez nous mettre sans doute des bémols importants, visait à dire que les sujets traités n'étaient plus contagieux, ou en tout cas que que la charge virale était quasiment indétectable.
Je crois qu'il faut surtout le considérer comme une piste de recherche intéressante et prioritaire. Et il y a d'ailleurs en cours en ce moment des projets de recherche qui visent justement à répondre à cette question. Est-ce que les personnes qui sont sous traitement infectent moins que les personnes qui ne sont pas sous traitement?
On n'en est pas sûr.
Mais voilà, on n'en est toujours pas sûr. C'est une piste de recherche.
Dans les pays où les traitements sont vraiment très suivis, l'épidémie tend à régresser considérablement. Est-ce que c'est vrai?
Ça veut dire qu'elle est stabilisée à un niveau bas, mais elle ne régresse pas. Il y a tous les jours de nouvelles infections, notamment des jeunes.
Je crois qu'il y a près de 8000 personnes dans le monde chaque jour.
Dans les grandes villes américaines, dans les grandes villes européennes. Donc ça n'est pas terminé. Mmh. C'est vrai que l'épidémie est beaucoup plus faible que dans les pays du Sud, du fait que la transmission hétérosexuelle est moins importante. Mais pour revenir au problème de la contagion des personnes traitées, il faut bien dire que la trithérapie ne guérit pas. Elle laisse une partie du virus, qu'on appelle un réservoir, absolument insensible à ce traitement. Et donc, dès qu'on arrête le traitement, le virus va revenir.
On peut dire d'une certaine manière que le virus dort, il est endormi.
Je crois qu'il a trouvé le moyen de former des formes assez bizarres.
Mm-hmm. Il se camoufle, il se cache.
Qui résiste totalement. C'est une adaptation, bien sûr. Plus on pousse un traitement, plus il y a une sélection de formes résistantes. Mm-hmm. Et comme ce virus a une capacité de varier énormément, il trouve très vite les solutions.
Est-ce que justement, au fil des temps, maintenant que ces multithérapies sont en place depuis un peu plus de 10 ans, on parlait des résistances tout à l'heure, est-ce qu'au fil du temps vous observez à cause de la mutation du virus des résistances qui se développent à ces traitements? Est-ce que c'est un phénomène en augmentation?
Bien sûr.
C'est un phénomène que l'on voit forcément en augmentation dès l'instant où les patients sont sous traitement. Et c'est pour ça que lorsque ces mutations apparaissent, il faut changer immédiatement la combinaison de traitement des patients. Ce qui veut dire aussi, et je crois que c'est important, notamment pour les pays à ressources limitées, c'est d'avoir non seulement un traitement, mais d'avoir un suivi de ces patients qui soit selon un standard pour éviter justement les résistances au traitement, la transmission de formes résistantes au traitement. Donc il n'y a pas pour l'accès aux médicaments uniquement les médicaments, il y a aussi le suivi des patients qui doit être fait très correctement.
Et ça c'est un domaine que vous connaissez particulièrement bien parce que vous vous battez aussi contre le sida sur le terrain, en particulier en Asie. Je crois que vous revenez du Cambodge.
Oui,
entre autres,
au Cambodge où il y a un programme de coopération avec l'Agence nationale de recherche sur le sida depuis des années, qui est un programme de recherche avec en ce moment notamment un gros programme qui concerne les co-infections entre le virus du sida et la tuberculose qui pose un gros problème dans ce pays.
Je voudrais bien que vous nous racontiez, madame, ce que vous faites justement quand vous êtes sur le terrain. Lorsque vous aviez raison de le dire, lorsque vous avez entendu que vous étiez lauréate du prix Nobel, vous étiez au Cambodge, professeur, vous étiez vous-même en Côte d'Ivoire, donc tous les deux, c'était très symptomatique d'ailleurs que vous soyez dans ces pays qui souffrent tellement du sida. Qu'est-ce que vous faisiez? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut faire sur le terrain? Vous formez des médecins, vous formez d'autres chercheurs, vous communiquez, vous faites, je ne sais pas, du lobbying auprès des gouvernants? Dites-nous un peu.
Il y a un peu de tout en fait. Il y a un peu de tout puisque.
C'est une question posée par Annick Cogent du Monde.
Il y a des formations qui sont associées à tous les programmes de recherche que l'on mène en coopération avec eux. Sur place, à la fois des formations de médecins, des formations de biologistes localement. Il y a aussi, en ce qui me concerne pour le Cambodge et le Vietnam, essayer de définir avec nos collègues sur place quelles sont les priorités de la recherche, rencontrer aussi les autorités de ces pays de façon à ce que ces programmes rentrent bien dans le cadre de la politique nationale de ces pays. Donc vous voyez, c'est un ensemble.
Alors, il y a une institution qui a été créée en 2002, ce qu'on appelle le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose également, et une troisième maladie,
le
paludisme, évidemment très important en Afrique. Depuis 2002, il y a eu un peu plus de 11 milliards de dollars qui ont été débloqués, c'est-à-dire que des grands États, notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, ont donné de l'argent. Il y a eu
d'ailleurs,
plus de
2 millions. Est-ce qu'ils ont donné tout cet argent promis? Parce qu'on parle de 11 milliards. Ouais.
Je crois.
Il y a eu, il y a eu 11 milliards débloqués depuis 2002. Mais l'ONU estime. Voilà. Et l'ONU estime que, notamment uniquement pour le sida, il faudrait que ce fonds débloque chaque année entre 15 et 20 milliards par an. Mm-hmm. Donc on est très loin du compte. Est-ce que 25 ans après, vous recevez ce prix Nobel, vous ne dites pas, mince, alors on en est là 25 ans après. Et est-ce que vous comptez utiliser ce Nobel pour dire au gouvernement américains, français, britanniques, qui ne remplissent pas tout à fait leurs obligations dans ce fonds de faire
mais
plus.
Il faut répéter quand même que ces traitements ne doivent pas être donnés n'importe comment, qu'il faut un suivi médical, comme l'a dit Françoise. Mm-hmm. Et donc, ça nécessite des infrastructures. Donc, le problème, souvent, ce n'est pas le manque de médicaments. Les médicaments sont donnés gratuitement dans plusieurs pays africains, maintenant, grâce au fonds global. Mm-hmm. Mais c'est le fait qu'il faut faire un suivi, et que d'autre part, le sida est une maladie taboue encore en Afrique, et que beaucoup de gens ne veulent pas se faire dépister, donc ils ne sont pas traités, ils ne sont pas identifiés.
Je vois que Françoise Barré bout de...
Si je reprends un exemple qui est le Cambodge, que je connais bien, grâce au Fonds mondial, le Cambodge a bientôt atteint le nombre de patients qui sont nécessaires à traiter, vont être sous traitement. Ça a pris du temps, c'est grâce justement au fonds du Fonds mondial. Le Fonds mondial ne donne pas de l'argent uniquement pour les médicaments. Le Fonds mondial, justement, les aide à renforcer les infrastructures, à renforcer également les formations de personnel, à augmenter le nombre de ressources humaines localement. Donc c'est du pas à pas. Le Fonds mondial ne paye pas uniquement les médicaments.
Mais
c'est un ensemble.
Mais 6 ans après la création du Fonds mondial, apparemment certains grands pays comme les États-Unis, la France, mauvais élève, et la Grande-Bretagne font un effort moins important que ce qui était prévu à l'origine et que ce qu'elles avaient dit qu'elles feraient en 2002.
Oui, c'est pour ça que je crois que c'est une bonne occasion aussi pour leur passer des messages. Et j'avoue que lorsque j'ai rencontré le président Sarkozy il y a quelques jours, je me suis permis de passer ce message.
Je voudrais qu'on aborde la question du vaccin. On y arrive naturellement, bien sûr. On a cru il y a quelques mois, il n'y a pas longtemps, qu'on avait mis le doigt sur un vaccin. Et puis c'est la grosse déception parce qu'en fait, on se rend compte que c'est pas pour... Vous avez parlé dans le petit reportage qu'on a vu tout à l'heure, dans le grand reportage, que vous avez bon espoir qu'on trouve un vaccin dans les prochaines années, vous avez dit.
De la prochaine thérapeutique.
Oui.
Je ne vais pas parler du vaccin préventif.
D'accord.
Voilà, expliquons déjà. Le vaccin préventif, c'est le vaccin royal qui empêche les personnes vaccinées de s'infecter. Et c'est ce que tout le monde cherche depuis 25 ans, 20 ans, et vous avez parlé, effectivement, il y a quelques essais qui ont été très loin dans l'essai d'efficacité et qui ont lamentablement échoué. Ouais. Il faut savoir pourquoi.
Donc il faut faire très attention quand on parle de vaccin, pas de faux espoirs.
Alors là, donc ça c'est le vaccin préventif. Par contre, je pense qu'un vaccin thérapeutique, donc qui se mettrait en complément, qui serait donné en complément de la trithérapie, pourrait restaurer le système immunitaire avec d'autres suppléments et permettre ainsi à la personne d'échapper à ce traitement qui dure toute la vie, qui est très
ennuyeux. Où en êtes-vous de ce vaccin? Vous en parlez à plusieurs reprises, professeur. Alors, il est trouvé, on l'a déjà essayé, testé dans quelques pays. Bon, il y a des malades qui l'ont
pas
essayé
encore,
déjà.
Pas encore, mais enfin, c'est une idée que je poursuivais depuis un certain temps, qui est en train de se réaliser maintenant.
Madame.
Je pense que les vaccins thérapeutiques sont effectivement une approche à poursuivre, puisque ce sont des approches déjà initiées depuis un certain temps. Il y a aussi, en ce qui concerne le vaccin préventif, il faut absolument pas donner d'espoir. Je pense que les échecs, dont le dernier de la fin de l'année dernière, ont permis à la communauté scientifique internationale de réaliser dans son ensemble combien il était nécessaire de retourner justement aux fondamentaux de la recherche et essayer de mieux comprendre comment notre défense immunitaire fonctionne.
Parce qu'en fait, le principe du vaccin, ce serait, si je simplifie à nouveau, ce serait d'activer notre immunité naturelle, nos défenses naturelles.
C'est une mémoire. C'est quand vous rencontrez le virus, vous avez déjà une mémoire qui vous permet d'éliminer le virus. Je pense d'ailleurs que probablement, même à l'état naturel, il y a un certain nombre de personnes qui sont, sans le savoir, immunisés, si vous voulez, qui ont été exposés au virus pendant un certain temps et qui sont vaccinés naturellement.
C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, certains séropositifs qui ne développent pas la maladie, d'où l'intérêt.
Là maintenant, c'est différent. Là, c'est des personnes qui sont exposées, mais qui ne sont pas infectées, qui restent séronégatives.
Oui, alors notamment, on avait beaucoup évoqué à un moment ces prostituées du Kenya qui étaient séronégatives, qui étaient contaminées, qui avaient des relations sexuelles sans protection et qui restaient séronégatives. Est-ce que c'est des domaines qui permettent, des personnes comme ça, qui permettent de faire avancer la recherche?
Ce sont les qu'on appelle les sujets exposés non infectés. Au départ, ces prostituées n'étaient pas infectées. Elles avaient développé... Oui. Alors, les mécanismes sont multiples, mais les prostituées dont vous parlez avaient une réponse, non pas immunité naturelle, mais une immunité spécifique, dirigée plus particulièrement contre le virus, avec des cellules tueuses spécifiques. Il s'avère que, selon les conseils qu'on leur avait donnés, elles ne s'en sont plus exposées au virus, et à un moment ou à un autre, elles se sont réexposées au virus, et elles avaient perdu la mémoire. Du virus, et là, elles se sont infectées.
J'ai expliqué ça bien, parce que là, j'ai pas de
compris. Il a la mémoire courte. Il a la mémoire courte, donc il a oublié le virus.
Vous savez, la mémoire était perdue de ce virus, et donc elles se sont infectées. Donc les exposés non infectés, oui, ce sont des sujets intéressants à étudier. On sait déjà quand même que les mécanismes sont extrêmement multiples et complexes pour expliquer leur protection contre l'infection, et que souvent cette protection, elle n'est que transitoire.
Donc une des pistes, ça pourrait peut-être d'essayer de faire perdre la mémoire au virus.
Une fois de plus, c'est bien plus compliqué que ça. C'est bien plus compliqué que ça. Vous parlez d'immunité naturelle tout à l'heure. On a deux immunités, une naturelle et une qui est spécifique justement de l'agent contre lequel on veut protéger. Eh bien, il se trouve qu'on sait aujourd'hui que ces deux immunités, elles se parlent entre elles. Et que dans le cadre de l'infection VIH, on sait aussi qu'il est capable de déréguler le dialogue entre les deux immunités.
Prendre le pas, par exemple, sur l'immunité naturelle.
Exactement.
S'il se concentre dans la lutte contre le VIH.
Un mot sur le travail que vous avez accompli, les recherches d'ailleurs, pour éviter que les femmes enceintes transmettent le virus au bébé. Semble-t-il, là pour le coup, il y a eu beaucoup de progrès majeurs qui ont été faits.
Exactement, puisque aujourd'hui, en tous les cas, dans nos pays, la transmission de la maman à l'enfant est pratiquement, non pas nulle, mais...
Quasiment en réalité.
10-20%
quasiment en
réalité. Moins que ça.
Moins que ça. Donc, 15-20%, c'était sans aucun, aucune prévention thérapeutique.
Et qu'en est-il en Afrique?
En Afrique, bien sûr, là aussi, les efforts ont été faits pour réduire la transmission de la maman à l'enfant. C'est pas parfait en Afrique. C'est pas parfait pour différentes raisons. L'une d'elles, c'est que souvent les mamans en Afrique allaitent et qu'il reste le problème de la transmission par le lait.
Et qui
fait perdre tout le bénéfice de la prévention thérapeutique au moment de l'accouchement.
C'est un des moyens de la transmission, si j'ose dire, de la transmission du virus par le lait.
Oui, absolument.
C'est très curieux parce que normalement le lait contient des anticorps contre d'autres maladies. C'est pour ça qu'on utilise l'allaitement en Afrique, par exemple, pour les protéger les bébés de diarrhée, de.
Donc là, paradoxalement, le lait maternel est
au contraire, le virus persiste.
Et il contient des cellules infectées aussi, le lait.
Je voudrais revenir, professeur Montagnier, sur ce que vous appeliez le vaccin thérapeutique, parce que évidemment, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de nos téléspectateurs et de nos auditeurs. Comment concrètement, si il doit avoir le jour bientôt, ça marcherait? C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait que la personne ait déjà pris une trithérapie pour avoir accès au vaccin thérapeutique, ou alors simplement contaminée sans trithérapie, elle prend le vaccin thérapeutique quelques mois et ça marche? Comment concrètement ça fonctionnerait?
Il y a effectivement deux situations. Je crois que c'est la première qu'on essaiera d'abord, c'est-à-dire la personne qui est traitée par la trithérapie, qui n'a plus de virus pratiquement détectable dans le sang, mais on sait qu'il y a un réservoir. Et à ce moment-là, on l'immunise contre des protéines bien choisies. Et là aussi, il faut faire très attention parce qu'on ne va pas dans le sens de la stratégie du virus. Il faut essayer d'éliminer les régions immunogènes les plus variables. Autrement, on va se retrouver toujours dans le cas de la variabilité du virus. Enfin, tout ceci peut être traité, on peut dire techniquement. Et donc, dans ce cas-là, ensuite, on arrête la trithérapie et on voit si le virus revient ou pas. Si le virus revient, c'est qu'on a échoué. Si le virus ne revient pas, c'est que le vaccin a marché. Très simple. En principe. Ensuite, la deuxième situation, effectivement, si ce vaccin marche, on pourrait le donner à des personnes récemment infectées qui ne sont pas en ce moment éligibles pour la trithérapie, ce que l'on dit parce que leur système immunitaire n'est pas assez déprimé. Et là, peut-être, on va empêcher l'évolution, justement, vers l'immunodépression. C'est deux situations qu'on peut espérer résoudre.
Juste, vous avez un horizon de faisabilité de ce vaccin thérapeutique, parce que maintenant que vous avez ce Nobel, visiblement, c'est là-dessus que vous allez travailler.
Je pense que effectivement, ce prix peut-être favoriser les financements d'un tel vaccin.
Annick,
j'ai une question sur la marge blanche, parce qu'on parlait des distorsion des différences, en tout cas entre les différents coins du monde et les différents pays. Je pense qu'il y a des différences culturelles et importantes, évidemment, et des moyens qui sont donnés. Je voudrais savoir ce qu'il en est des pays musulmans, même de certains régimes islamistes, pour lesquels, qui proclament en tout cas que le sida n'est en aucun cas un problème. Et qu'en est-il? Est-ce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie? Est-ce que c'est un manque d'information? Ou est-ce qu'il y a certaines pratiques sexuelles ou certains interdits qui, effectivement, peuvent expliquer ces grandes distorsions?
Je pense que derrière votre question, il y a la prévention aussi par la circoncision.
Bien sûr.
Puisqu'il a été démontré que la circoncision pouvait diminuer de 60%, le risque d'infection. Néanmoins, c'est 60%, hein, c'est pas 100%. Donc personne aujourd'hui ne se permet de recommander la circoncision comme méthode de moyen de prévention unique.
Unique.
Certainement pas.
Mais est-ce que c'est quand même un des moyens?
Mais c'est un moyen. D'ailleurs, l'OMS s'était prononcée déjà il y a quelque temps sur ce sujet. Et il y a des études. Les études ont été confirmées par plusieurs équipes.
C'est évidemment très très important, notamment dans les pays musulmans. On sait que la circoncision est évidemment largement pratiquée. Donc quel est le message, pour poursuivre sur la question d'Annick, que vous voulez transmettre à ces pays?
C'est la circoncision, bien sûr, pourquoi pas, mais associée à d'autres méthodes de prévention classiques.
Toujours au préservatif, ça reste le grand message. Et on a dit quelquefois que les Américains, dans certains pays, continuaient avec cette espèce de mot d'ordre sur l'abstinence, etc. Ouais. C'est de moins en moins vrai. Et le mot d'ordre reste bien utiliser des préservatifs, bien sûr, en Afrique.
Alors, je lançais tout à l'heure un appel aux internautes. Nous avons quelques questions qui sont arrivées, entre autres celle de Stéphane, qui nous appelle d'Allemagne. Alors, pourquoi, on a déjà partiellement répondu à la question, mais je voudrais la reposer pour vraiment synthétiser, pour que ce soit bien clair. Pourquoi certaines personnes sont porteurs du virus et ne manifestent pas la maladie alors que d'autres sont malades? Qui veut répondre à la question?
Effectivement, il y a plusieurs mécanismes. Mmh. Il y a des mutations génétiques. Mmh. Donc il y a des personnes qui effectivement sont moins susceptibles au virus, même certaines sont totalement résistantes à certaines formes de virus. Enfin, c'est une très petite minorité, c'est 1 ou 2% dans nos pays européens. Mmh. Et puis il y a aussi effectivement les fameux élites infectées, l'élite des gens qui sont... des contrôleurs qu'on appelle élite contrôleurs.
Qu'est-ce que c'est exactement les contrôleurs?
Ce sont des personnes qui sont infectées par le virus depuis plus de 15 ans.
Mmh. Ce qu'on appelait les long survivors avant.
Les non-progresseurs, comme nous les appelions avant, les contrôleurs sont une petite proportion de ces progresseurs, c'est moins de 1%. Et ce sont des personnes qui sont infectées depuis plus de 15 ans, qui n'ont pas besoin de traitement et qui contrôlent parfaitement bien leur virus, puisqu'on ne peut pas détecter le virus dans le sang. Mm-hmm. Très, très peu de copies par des méthodes extrêmement sensibles. Donc, ils contrôlent la multiplication du virus naturellement. Et les questions que posées sur ces sujets ont déjà démontré, un, comme on le disait tout à l'heure, des facteurs génétiques et d'autre part des cellules capables d'éliminer les cellules infectées.
Donc ça prouve bien que c'est leur système immunitaire qui les défend, mais est-ce qu'il va les défendre jusque tout le temps? Ça, c'est une question qu'il faut qu'ils gardent un très bon système immunitaire s'ils veulent rester dans cette situation. Et ça, à nouveau, ça nous encourage à essayer de restaurer le système immunitaire des personnes infectées par différents moyens pour que là, de 1%, on passe à 90%.
Une autre question quand même internet de Zine El Abdine d'Algérie. Que pensez-vous, dit-il, d'être obligé de battre leur appel pour récupérer des capitaux pour la recherche? C'est vrai qu'on peut mettre ça en parallèle avec on en a parlé déjà, mais les dizaines de milliards d'euros, centaines de milliards d'euros qu'on trouve pour sauver le système financier, sans vouloir faire un parallèle absolu, mais tout de même. L'argent, c'est le nerf de la guerre.
La santé, beaucoup de pays devraient y consacrer davantage de financement, parce que la santé, c'est une valeur universelle, quelle que soit la culture, quelle que soit la religion.
Vous avez dit le président Sarkozy, Françoise Barécine aussi, vous nous avez dit, je suis allé le voir, je lui ai dit, écoutez, président, j'imagine, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il vous a dit, un engagement concret ou...
J'ai posé simplement la question par rapport au Front mondial et par rapport à l'engagement de la France. Et respect de l'engagement de la France pour.
Est-ce que vous n'avez pas peur que la crise actuelle nuise encore à la recherche?
C'est de l'acquis.
D'accord.
Françoise Barré, vous n'avez pas peur que la crise actuelle, la crise financière, la science et la recherche soient parmi les premiers sacrifiés ?
Bien sûr, puisque en période de crise financière, le parent pauvre, c'est souvent la recherche et la santé.
Et c'était déjà un parent pauvre en France. C'est pas terrible, hein, la situation de la recherche. Attends, juste, Annick. C'est déjà le parent pauvre. Vous pensez que ça va s'aggraver encore ?
Je crains que ça s'aggrave.
Enfin, il y avait un effort particulier sur le sida. Il ne faut pas se plaindre quand même trop. Mais c'est vrai que par rapport aux États-Unis, cet effort est beaucoup plus faible, même des proportions de population. Donc l'effort de recherche est effectivement, principalement aux États-Unis. Il faut le reconnaître.
Et sur la recherche de façon générale en France, madame, vous étiez notamment à l'armée en 2004. Il y avait eu tout un collectif. Il y avait 57 000 chercheurs, je crois, qui avaient signé une pétition sur Sauvons la recherche en France. Est-ce qu'il s'est passé des choses depuis 2004 réellement ? Vous étiez en première ligne, là, vous aviez dit beaucoup de choses. C'est le moment.
Écoutez, je crois que la situation aujourd'hui est celle du moment où on voit des réformes se mettre en place et nos autorités nous disent que c'est un petit peu en réponse au constat qu'il y a effectivement à revoir un petit peu le système de fonctionnement de la recherche en France.
Ça veut dire c'est moins,
globalement, pour
c'est la réforme du CNRS. Ça veut dire quoi ? C'est moins.
Ça veut dire
sur l'argent public.
Réinsertion surtout de la recherche au niveau des universités. Mm-hmm. Avec pour l'instant une première étape qui est la création d'instituts de recherche thématique. Mm-hmm. Il y a par exemple l'Institut de recherche des maladies infectieuses, l'Institut de la recherche sur le cancer.
Et ça, vous le voyez d'un bon œil ?
Et pourquoi pas regrouper pour coordonner et animer mieux la recherche, pourquoi pas, mais à condition que ces instituts aient un financement.
Oui, professeur Montagnier.
Oui, mais je dirais c'est effectivement faire un effort financier, mais aussi bien ciblé. Mmh. Or, le problème du sida actuellement, c'est qu'on a fait un peu le tour des approches classiques pour les vaccins, par exemple. Mmh. Il faut donc à la fois revenir à la fondamentale et surtout faire beaucoup d'innovation. Mmh. Donc, il faudrait financer des recherches qu'on appelle à risque, c'est-à-dire qui ont un risque d'échec.
Mais qu'on appelle les essais blancs.
Oui, maintenant on parle des blancs.
Ça veut dire ce qui se passe justement au sein de l'Agence nationale de recherche sur le sida, qui a été créée par le gouvernement en 88 avec un programme de recherche sur le vaccin où il y a effectivement des recherches à risque qui vont être entreprises et qui sont entreprises. Ouais. Maintenant, justement, si cette agence ne perdure pas,
qu'est-ce que vous diriez à un jeune de 20 ans aujourd'hui en 2008 pour qu'il se lance dans la carrière que vous avez menée, pour qu'il choisisse les mêmes études que vous et pour qu'il devienne chercheur?
Ce qui est inquiétant d'abord, c'est qu'il y a de moins en moins d'étudiants en sciences et en biologie notamment. Donc la première chose des affaires.
Et notamment en matière de recherche sur le sida, je les ai.
Oui, mais le sida vient après. Si vous voulez, le jeune chercheur, d'abord, il faut qu'il soit se forme. Mmh. Et ça peut durer 5 ans à 10 ans, la formation d'un jeune chercheur, avant qu'il soit capable qu'il ait passé sa thèse. Et la thèse est toujours sur un sujet pointu, mais assez commun, si on peut dire. Mmh. C'est seulement après qu'il peut faire de la recherche innovante dans un bon laboratoire.
Peut-être oui. Le mot de la fin.
Pour être bref, je dirais à un jeune chercheur, s'il est franchement passionné, motivé pour faire ce métier merveilleux, eh bien, il faut qu'il résiste à tout et qu'il continue.
Ouais. Et parfois avec des salaires qui ne sont pas vraiment à la hauteur de l'enjeu.
Exactement.
On va les augmenter, je crois.
Vous pensez ?
Ça va s'arranger.
Enfin, je pense, en tout cas, il faut bien dire aux étudiants que les sciences leur sont ouvertes et que la science, c'est vraiment la clé pour la santé de demain. Voilà. Aujourd'hui aussi, mais demain surtout.
Appel aux vocations, la France a besoin de chercheurs, et pas seulement la France d'ailleurs.
Absolument.
Merci à vous deux, merci d'avoir été les premiers invités de cette émission internationale. Merci Bruno, merci Annick, et puis on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro d'International. Au revoir.